Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous sommes le rempart à la violence illégitime. L'exécutif se pose en garant de l'ordre en cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, avec plus de 150 cortèges dans toute la France. Et la crainte ici et là de voir ces cortèges noyautés par des éléments radicaux et de revoir ces scènes de violence qui ont marqué déjà le pays jeudi dernier. 13 000 policiers et gendarmes ont été en tout cas déployés dans tout le pays pour l'éviter.
Mais au-delà des violences, comment expliquer cette mobilisation? Quels sont les ressorts de la colère?
Qu'est-ce qui pousse les jeunes par exemple à entrer eux aussi dans le mouvement? On y reviendra longuement dans cette édition. Une journée marquée en tout cas par ces manifestations, ces actions coup de poing aussi dans les gares, notamment RTL comme toujours est à vos côtés et ça pourrait durer. L'intersyndicale appelle à une médiation aujourd'hui mais le gouvernement ne paraît pas à ce stade très enthousiaste. À suivre aussi dans ce RTL Midi, la dette du pays qui augmente, mais moins que prévu. C'est presque une bonne nouvelle. La chaîne de fast-food KFC rappelée à l'ordre pour une publicité dans laquelle les poulets paraissaient un peu trop peureux. Et puis du foot, vous en parliez, Pascal, après la victoire 1-0 des Bleus hier en Irlande. La question du jour sur notre site RTL.fr. Mike Maignan, peut-il devenir le plus grand gardien de l'histoire des Bleus? À midi 20...
Ah, ça va vite. Quand même un match et puis tout de suite il est propulsé au sommet parce que c'est Barthez a priori le plus grand gardien des Bleus jusqu'à ce jour.
Il n'est pas encore champion du monde Mike Maignan, c'est vrai. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Comment réparer son électroménager aujourd'hui? Et puis juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture, Monique Younes nous emmènera au musée Picasso à Paris où l'on commémore les 50 ans de la mort du peintre avec une expo très particulière.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole.
La météo avec vous, Peggy Broche, aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Bonjour Céline, c'est un temps plutôt calme, voilé au nord et bien ensoleillé au sud.
Et bonjour Peggy, pardon, les prévisions complètes à la fin du journal.
RTL Midi.
Déjà l'acte 10 et pourtant la mobilisation contre la réforme des retraites, texte adopté, on le rappelle, par 49-3, ne semble pas retomber ce mardi. Au moins 150 rassemblements annoncés dans tout le pays et partout aussi des actions coup de poing. Blocage routier, envahissement des voies dans les gares, c'est le cas Gare de Lyon à Paris, à Lorient, c'était aussi le cas ce matin à Rennes où l'on vous retrouve, Valentin Boisset. Rennes où la manifestation vient de s'élancer dans un centre-ville complètement barricadé.
Oui, absolument, et c'est assez impressionnant. Tous les abribus sont empaquetés dans du plastique. Presque toutes les vitrines sont recouvertes de planches de bois. Il y a deux canons à eau déployés et la police ferme toutes les artères du centre-ville historique. Il faut dire que le cortège est particulièrement fourni à la mi-journée et que quelques violences ont déjà émaillé ce matin les différents blocages. Le cortège est au moins aussi fourni que jeudi dernier, car on croit à Rennes que Emmanuel Macron peut encore reculer. C'est ce que pensent notamment Sylvain et Marine.
Ça s'est déjà vu dans le passé, par exemple en 2006 pour le contrat de première embauche où le gouvernement a lâché à cause de la répression mais de la mobilisation. Je pense que ça peut encore se jouer. Si on ne croyait pas au fait que ça puisse changer, on ne serait pas là.
Ça peut encore monter en puissance?
Ouais, pourquoi pas. Moi j'ai un peu peur aussi que ça parte un peu dans tous les sens au niveau violence, mais les gens ne sont pas contents et on ne les écoute pas. Donc je comprends même si je n'adhère pas, on va dire, à la violence.
Valentin Boisset. Valentin qu'on a perdu, donc c'est les aléas du direct. Valentin qui était dans la manifestation à Rennes. Du monde dans les rues, vous l'avez compris, mais les grévistes moins nombreux, en tout cas à l'éducation nationale. Un peu plus de 8% d'enseignants en grève selon le ministère aujourd'hui. Ils étaient plus de 20% la semaine passée.
Mais ce qui inquiète, ce sont bien sûr les possibles violences en marge des manifestations.
Avec pour les contenir un dispositif inédit d'après le ministre de l'Intérieur. 13 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, 5 500 rien qu'à Paris, où le cortège s'élancera cet après-midi de la place de la République vers celle de la nation. Le gouvernement, lui, reste à ce stade inflexible. Écoutez son porte-parole, Olivier Véran, il y a quelques minutes.
Respecter les manifestations, c'est aussi refuser et condamner sans réserve les violences lorsqu'elles ont cours. Et ceux qui, en ne les condamnant que du bout des lèvres ou en tentant de leur donner une forme de justification, n'honorent ni la confiance de leurs électeurs, ni les institutions qu'ils ont juré de servir et protéger. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse.
Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Alors, comment sortir de la crise? Grâce à une médiation, propose ce matin l'intersyndicale. Écoutez Philippe Martinez, le leader de la CGT.
Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, eh bien, on essaie de trouver une solution sur des sujets qui sont plus que jamais d'actualité, la pénibilité, le travail. Et donc nous allons écrire au président de la République pour valider par écrit cette proposition.
Philippe Martinez avec Guillaume Frixon pour RTL. La lettre, ce ne sera pas forcément nécessaire puisque le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, vient d'opposer une fin de non-recevoir à cette demande de médiation. Nul besoin de médiation, assure le porte-parole du gouvernement. Quand on peut se parler directement dans la République, il n'y a pas de médiateur, insiste Olivier Véran. On suivra, bien évidemment, vous l'avez compris tout au long de ce RTL Midi, cette nouvelle journée de mobilisation, l'acte 10, donc contre la réforme des retraites.
RTL Midi.
C'est presque une bonne nouvelle. La dette de la France augmente, mais moins que prévu.
Elle atteint les 2950 milliards d'euros. Ça fait beaucoup de zéros. C'est assez vertigineux, Martial Lieu. Difficile de mesurer ce que ça représente exactement.
Oui, alors pour vous faire une idée, c'est très théorique et virtuel, mais c'est comme si chaque citoyen français, même les bébés, avait une dette sur les épaules au nom de l'État de 43 382,35 €.
Mais à qui on doit de l'argent ?
Alors nous, on doit de l'argent à personne, simplement. Voilà, c'est la dette cumulé de l'État, et comme nous sommes les débiteurs, oui. Ceux qui peuvent être en dernier...
Mais c'est très abstrait, en fait.
Et bien sûr, bien sûr.
Donc, quand on dit la dette, alors à qui on rembourse?
Alors, pour l'instant, on a des créanciers, qui sont les marchés financiers, notamment, les différents... la bourse, vous avez également d'autres États qui ont une partie de la dette, vous avez énormément d'étrangers qui sont, évidemment, propriétaires d'une partie de la dette de la France, et tout ça est soumis aux aléas du marché, et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que aujourd'hui, c'est important pour le gouvernement d'afficher au moins le fait d'être en dessous de 3 000 milliards.
C'est ça la bonne nouvelle.
Voilà, la bonne nouvelle, c'est celle-là. C'est celle qui permet de dire on a quand même réussi à contenir, après une année de Covid, une année de guerre en Ukraine, cette défaillance et en tout cas cette envolée. La croissance, l'an dernier, elle était de 2,6%. Ça, c'est pratique parce que quand vous avez une croissance au-dessus de 2%, pardon, vous avez le chômage qui baisse assez naturellement. Vous avez des rentrées fiscales et sociales sur les salaires qui augmentent et c'est pour ça que la croissance, elle permet d'améliorer les comptes publics mécaniquement. Et puis, c'est important pour le gouvernement politiquement aussi de montrer que finalement, il y a des comptes un peu tenus. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'ADN de la droite, traditionnellement, bien sûr, les finances publiques et la maîtrise des finances publiques. Et en ce moment, on sait bien que le gouvernement a besoin de donner des signes à l'ADN des LR.
Merci beaucoup, Martial Lieu, chef du service économie de RTL.
La publicité, elle aussi, a son code de déontologie, notamment quand on parle poulet.
Avec une grande première en France, une campagne de la chaîne de fast-food KFC est épinglée, Virginie Garin, pour des images de gallinacés un peu trop heureux avant de finir en poulet frit.
Oui, on voit un poulet qui sautille joyeusement sur le ventre d'une vache allongée sur le dos dans un cadre champêtre. Alors, une publicité pour une offre promotionnelle et une sympathisante de la cause animale a saisi le jury de déontologie publicitaire qui a été créé par les professionnels de la pub et qui lui a donné raison car les poulets de KFC sont bien souvent issus d'élevage en cage et ne voient jamais le jour. Adrienne Bonnet de l'association Wellfarm se réjouit de cette décision car les poulets dans les élevages intensifs sont loin de sautiller sur le ventre des vaches.
Comme les animaux n'ont pas accès au plein air, ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins naturels qui consistent à gratter le sol, picorer, se percher, prendre des bains de poussière. Cela signifie que les animaux sont maintenus donc toute leur vie dans des bâtiments, sur une litière souvent insalubre, qui est rapidement gorgée d'ammoniac. Cela entraîne donc des problèmes respiratoires, l'irritation des muqueuses, etc.
Alors le jury de déontologie a estimé que cette publicité ne devait pas être trompeuse, que le poulet semble s'envoler alors qu'il est enfermé. Alors ce n'est pas une juridiction. Il n'y aura pas de sanctions, mais l'association Wellfarm espère que ça va faire réfléchir les publicitaires pour les futures campagnes, qu'ils intègrent eux aussi la notion de bien-être animal.
Virginie Garin. La météo, Peggy Broche, on vous retrouve, on a eu un petit peu froid ce matin, ça se réchauffe cet après-midi.
Ah oui, ça va mieux, et surtout dans le sud-ouest où là les températures, on peut gagner par endroits 20 degrés, 20 cet après-midi à Toulouse, 21 à Auch, 22 à Bordeaux, 24 même à Biarritz. C'est un peu plus tempéré près de la Méditerranée, mais ça reste très doux. 18 à Nîmes, 17 à Toulon, 16 à Nantes cet après-midi ainsi qu'à La Rochelle, 14 degrés à Lyon, 13 à Paris, 12 à Cherbourg, 11 à Reims et 10 à Lille. Alors, c'est le même type de temps finalement, peu de changements, peu d'évolution par rapport à ce matin. On a toujours un ciel bien voilé sur la moitié nord avec qui peut par endroit laisser passer quelques éclaircies, mais elles sont plutôt rares. On a surtout quelques averses sur les bords de Manche et qui peuvent laisser aussi passer quelques gouttes, quelques ondées dans les terres. Ça peut aller jusqu'à l'Île-de-France cet après-midi notamment. Dans la moitié sud, c'est du soleil et attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord qui est de 4 sur 5.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et chaque jour l'info au plus près de vous pour constater aujourd'hui que la mobilisation reste très haute.
Et pour ça, nous allons prendre la direction d'Arles. Arles, 6000 manifestants jeudi dernier dans une ville de 50 000 habitants. Ce matin, le cortège s'était lancé à 10h30. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous êtes pour RTL avec les manifestants. Comment explique-t-il une telle mobilisation ?
Eh bien écoutez, cette jolie ville touristique aux portes de la Camargue est en réalité une ancienne ville industrielle qui a vu ses grandes entreprises péricliter au fil des ans. Le taux de chômage varie entre 11 et 13% selon les indicateurs et ça continue. Écoutez Sébastien, il a manifesté ce matin, il a subi il y a quelques mois un plan social.
Il y a eu un plan de licenciement qui s'est opéré et qui a conduit au licenciement d'une centaine de personnes à peu près, sur un effectif de 300. Ça combiné à des baisses de salaire pour les salariés qui sont restés. Moi, à titre personnel, j'ai perdu 200 brut par mois, sans compter les modifications des conditions de travail qui ont été perdues.
Donc ça, c'était il y a un an et demi. Et là-dessus arrive la réforme des retraites.
Oui, mais ça se combine, effectivement. Donc ça alimente, ça participe en tout cas, oui, grandement au sentiment d'injustice que les salariés de tout le pays peuvent ressentir, effectivement.
Avec, selon Sébastien, le coup de grâce qui a été le passage de la loi avec le 49-3.
J'avais envie de dire, la réforme des retraites, c'est presque devenu un sujet secondaire. Maintenant, ce qui pose problème, c'est l'utilisation des outils constitutionnels qui ne semblent pas en phase avec le ressentiment de la population.
Ce qu'on comprend en creux, Étienne, c'est qu'il y a chez ces manifestants un sentiment de déclassement.
Exactement, d'autant plus que ces grosses industries qui ont disparu ici ont été remplacées par ces vastes entrepôts de logistique en bordure du port de Fos-sur-Mer, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, avec des conditions d'emploi précaires, explique Mohamed. Il est délégué syndical dans l'une d'entre elles.
C'est des boulots très difficiles parce que tout est basé sur la productivité. Tu es bon, on te garde, tu es pas bon, on te jette. Et à 55 ans, on est beaucoup moins productif qu'à 20 ans. Voilà. Donc à 55 ans, 58 ans, soulever du poids, 20 tonnes par jour, voilà, ça va être difficile.
Donc 64 ans ?
Non, c'est impossible. Ils n'y arriveront pas. Ils se feront virer avant.
Avec en plus des salaires autour de 1300 euros, un recours important au travail temps intérimaire. D'ailleurs, ces travailleurs-là ne sont peu nombreux dans le cortège. Ce matin, un cortège moins important que la semaine dernière, 4000 manifestants contre 6000, mais où la revendication principale reste le retrait de la réforme des retraites. Pour les opposants, c'est la mère des batailles et elle devient, disent-ils, une question de principe face au mépris du gouvernement et du président qu'ils ressentent ici vraiment très fort.
Merci beaucoup Étienne Baudu à Arles pour RTL.
Jean-Luc Mélenchon est-il responsable de la bordélisation du pays, pour reprendre l'expression employée par Gérald Darmanin? On en parle dans une seconde avec Olivier Bost.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Vous le savez, c'est l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites et la deuxième journée depuis l'adoption de la loi par 49-3, avec la crainte, on l'a dit, de nouvelles violences en marge des cortèges. Aujourd'hui, l'exécutif et au premier rang Emmanuel Macron accuse la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon de vouloir saper les institutions, de vouloir délégitimer l'ordre raisonnable. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service politique de RTL. On a voulu revenir sur ce sujet avec vous. Est-ce que l'Élysée cherche aujourd'hui un responsable à tout ça?
En fait, Jean-Luc Mélenchon fait de la politique dans toutes ces histoires, la politique du pire pour beaucoup, mais ça, on va y revenir. Emmanuel Macron a donc décidé, effectivement, tardivement, diront certains, de répliquer avec, là aussi, de la politique. Alors, dans une période de crise, il faut désigner ses adversaires et chercher quelques alliés. Alors, pour les alliés, le chef de l'État tend la main aux syndicats. Et puis, il a chargé sa première ministre d'aller voir si à gauche comme à droite, elle ne pouvait pas trouver quelques voix qui lui manquent pour pouvoir continuer de gouverner. Dans ses initiatives politiques, l'adversaire désigné, c'est donc Jean-Luc Mélenchon, accusé de souffler sur les braises pour ourdir contre la République. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'a dit il y a quelques minutes très clairement à la sortie du Conseil des ministres.
Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont graves. Son projet politique sous-jacent, mortifère pour la stabilité de nos institutions et pour notre pays, c'est grave. Et Jean-Luc Mélenchon ne peut ignorer que des gens sont venus non pas pour protéger des bassines, non pas pour le projet de loi sur les retraites, mais pour tenter de saper l'autorité des institutions.
Bon, objectivement, et sans prendre parti complètement, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon, oui. Manifestement.
Bien sûr, le leader de la France Insoumise a été formé chez les trotskistes, tendance lambertiste, alors je ne vais pas me lancer dans un cours d'histoire politique, mais pour résumer, dans cette mouvance, il faut infiltrer et déstabiliser le pouvoir pour arriver à ses fins politiques. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a théorisé depuis longtemps, souvenez-vous, le bruit et la fureur, l'idée que le chaos était en fait le point de départ de toute révolution. Écoutez attentivement ce qu'il a dit hier au micro RTL de Joséphine Tazdeït en réponse aux accusations d'Emmanuel Macron.
Nous avons absolument besoin que la censure populaire s'exprime encore avec force, que soit bloqué tout ce qui peut l'être. Nous ne croyons pas que des institutions à vocation autoritaire comme celle que nous avons soient conforme à ce qui conviendrait à la France aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes de longue main partisans de la 6e République qui serait mise au point par une constituante et non pas par la violence.
Oui, bon, donc c'est après une violence quand même, un nouveau régime, on n'en sort pas. Et Jean-Luc Mélenchon, avec son habileté oratoire, renvoie toujours l'origine des violences à Emmanuel Macron.
Oui, mais justement, Olivier, les Français ne veulent pas de violence. Ils ne suivront pas Jean-Luc Mélenchon aussi ?
Alors, c'est le calcul politique d'Emmanuel Macron, en tout cas, que l'envie de retour à l'ordre soit plus fort à un moment que le rejet de la réforme des retraites. Pour l'instant, il faut être honnête, hein, c'est pas ce qui se passe. Dans notre sondage BVA-RTL réalisé hier, 7 Français sur 10 se disent inquiets devant les violences, mais 7 Français sur 10 ne veulent toujours pas de la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron qui pâtit de la situation, puisque sa cote de confiance baisse encore et s'approche de son niveau de l'époque des Gilets jaunes. En fait, 21% dans notre sondage, 21% des Français disent comprendre les violences. 21%, c'est un peu de choses, hein, le score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. C'est en fait la tactique et puis la très grosse faiblesse de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il reste toujours minoritaire.
Merci beaucoup Olivier Bost. On suivra évidemment les réponses hein, qui ne devraient pas manquer dans cette joute verbale et politique. Merci Olivier.
Dans un instant, RTL Midi, évidemment votre vie. Et figurez-vous, alors c'est un tout autre sujet, bien sûr, on va parler des appareils d'électroménager qui tombent en panne. Et figurez-vous, je vous l'ai dit déjà hier, ça m'est arrivé il y a 15 jours. Et il a fallu que je change de machine à laver.
Et peut-être que vous auriez pu la réparer, Pascal, on va en parler dans un instant.
Je ne crois pas, moi-même en tout cas.
Vous allez voir qu'il y a des solutions.
Il est 12h19, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi, votre vie.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
RTL Midi, bien sûr, l'info, c'est ce qui fait votre quotidien, c'est notre quotidien, bien sûr, les appareils électroménagers. Et ça tombe en panne parfois.
Chaque année, 28 Hélas. Millions effectivement, d'appareils électroménagers tombent en panne et seulement 5 millions seraient réparés. Pour en parler avec nous, Geoffroy Malater, fondateur de l'entreprise Spareka. Bonjour.
Bonjour.
Vous proposez des pièces détachées avec Spareka, mais vous accompagnez aussi les particuliers dans la réparation, en tout cas dans les tentatives de réparation de leur électroménager grâce à des appels en visioconférence, des appels vidéo. Donc, Pascal, juste avant la publicité, nous expliquait ses déboires avec sa machine à laver il y a quelques jours. Est-ce que vous accompagnez typiquement des particuliers face à ce type de panne et comment ?
Exactement.
Alors, Spareka a été créé dans le, avec l'ambition d'aider tout le monde à pouvoir réparer ses appareils électroménagers. Alors, en l'occurrence, les lave-linges, bien entendu, mais aussi, au sens large, tous les appareils de la maison, donc l'électroménager, mais aussi les appareils du jardin, etc. Et en fait, on a une première étape qui est vraiment cruciale, qui est celle du diagnostic. Alors, lorsque vous avez un téléphone portable avec son écran cassé, vous voyez tout de suite qu'il faut le changer. Mais par contre, quand vous avez une flaque d'eau en dessous de votre machine à laver le linge, eh bien, c'est là où il faut identifier l'origine de la panne. Et on propose à la fois des diagnostics en ligne, directement avec un chatbot qui va vous poser des questions, et puis également des diagnostics avec des techniciens. Et là, ce sera en visio pendant 15 minutes. Et le technicien va, avec vous, avec votre aide, identifier l'origine de la panne.
Et ça marche toujours, ça, même en visio, parce que vous m'étonnez, c'est-à-dire que celui qui a un souci doit répondre à des questions, mais comment peut-il donner des précisions ?
Alors écoutez, déjà, il faut savoir que dans 50% des cas, et alors c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est une grande marque au contrat de confiance, qui nous dit que lui, dans 65% des appels de panne qu'il a, il n'a jamais de pièces détachées à changer. Donc imaginez, ça veut dire que dans plus d'un cas sur deux, finalement, vous pouvez remettre en service votre appareil sans changer la pièce détachée. Donc lorsque vous êtes avec un technicien en visio, il va vous montrer, en fait, peut-être que votre tuyau est bouché, que votre filtre est encrassé, qu'il y a une petite pièce de monnaie qui bloque l'hélice de la pompe qui fait que vous n'allez pas vidanger. Donc, un cas sur deux, pas de pièce détachée. Ensuite, en effet, dans à peu près 50% des cas, on va identifier la pièce détachée, on va vous proposer d'acheter cette pièce détachée-là et on va vous montrer des tutos pour changer la pièce détachée. Et en fait, une machine, c'est un peu comme un Lego, c'est très facile. Lorsque vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous avez juste à, globalement, débrancher des cosses quand il s'agit de quelque chose d'électronique, ou alors juste d'enlever la pièce. Quand, par exemple, c'est une courroie, bah, c'est vous enlevez quatre vis et puis vous le faites. Et c'est très facile, nous, on l'apprend alors, à des enfants de 6e.
Vous dites c'est très facile, c'était ma question. Est-ce qu'il faut être un peu bricoleur avant de vous solliciter, ou est-ce qu'on peut, même si on n'a jamais réparé quoi que ce soit? Et est-ce qu'il faut être équipé aussi? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une trousse à outils bien fournie, ou est-ce qu'avec un tournevis et un marteau, on peut vous appeler?
Alors, un marteau, je ne sais pas, un tournevis, c'est sûr. Alors écoutez, non, évidemment qu'il y a un aspect, il y a des freins psychologiques. J'entends Pascal qui dit, moi j'en serais pas capable, moi je suis sûr qu'il en est capable. Par contre, il faut qu'il accepte d'y passer un petit peu de temps. Et ça prend peut-être une petite demi-heure. Les gens le font principalement parce que finalement, ça leur évite d'avoir un dépannage qui va coûter 150 euros avec un technicien. Et pour 40 euros, en fait, ils vont pouvoir remplacer leurs pièces détachées. Donc, moi,
justement, vous êtes combien d'ailleurs ?
40 euros en moyenne. Voilà.
Et
la pièce détachée coûte 40 euros et 7 euros la visio. Donc vous avez vous voulez faire un diagnostic pendant 15 minutes avec un technicien, ça va vous coûter 7 euros TTC sur notre site internet. 6,99 exactement. Et donc, finalement, vous avez besoin d'un tournevis, ça c'est clair, et vous avez parfois besoin d'un multimètre. Donc là, on a bien conscience que pas tout le monde a un multimètre. Donc pour tous les sujets qui vont être
expliquez à Pascal
un peu plus
ce que
électrique,
c'est un multimètre.
Quoi, un multimètre?
Alors un multimètre, ça va vous permettre de mesurer tout ce qui est lié au courant électrique à l'intérieur de votre appareil, donc voir si la résistance qui chauffe votre eau fonctionne ou s'il faut la changer.
Ah là, vous m'avez perdu là.
La résistance qui chauffe l'eau dans la bouilloire, voilà.
Bon, dites-moi, les appareils d'électroménager, est-ce que c'est vrai qu'ils connaissent une vie plus courte, ce qu'on appelle l'obsolescence, quoi, programmée? Est-ce que c'est une réalité, ça?
Écoutez, moi je crois pas. Je pense que tout simplement l'industrie pendant très longtemps a essayé de gagner de l'argent en essayant de diminuer ses coûts de production, et donc on fait des choses un peu plus simples et un peu moins costauds, mais je ne crois pas que c'était dans l'objectif que ça se casse. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans cette filière de l'électroménager pour aller mettre autant d'intelligence là-dedans, et du coup je pense que c'est plutôt de la caste, du manque d'intérêt en fait pour le design de réparation du produit. Et grâce à l'indice de réparabilité, eh bien maintenant ce sont des appareils qu'on identifie. On arrive à voir des appareils qui sont mal conçus, qui sont peut-être moins chers, mais qui vont, lorsqu'il y aura une panne, ne pas pouvoir être réparables.
Eh bien merci. Lancez-vous, donc chers auditeurs, vous avez compris, il faut essayer de réparer ce que l'on peut, même si on n'est pas forcément bricoleur. Merci beaucoup Geoffroy Malaterre.
Merci, à bientôt sur Spareka.
Bien évidemment, sur Spareka. L'info revient à 12h30.
Sur RTL suite. Cette fois.
Bien sûr.
Céline Landreau, Pascal Praud.
RTL midi jusqu'à 13h.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12-30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Journée particulière, vous le savez, acte 10, c'est le moment de votre grande édition de la mi-journée, Céline Landreau.
Avec aujourd'hui plus de 13 000 policiers et gendarmes déployés pour encadrer les manifestations pour cette deuxième grande journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites par 49.3. Nous sommes le rempart à la violence illégitime, a déclaré ce matin le porte-parole du gouvernement. Alors que la mobilisation semble encore forte. En ce mardi, les blocages se multiplient. Plus de 150 manifestations sont par ailleurs annoncées dans le pays. Comment sortir de cette crise politique, de cette crise sociale ? L'intersyndicale demandait ce matin une médiation. Le gouvernement semble lui opposer à ce stade une fin de non-recevoir. À suivre aussi dans ce journal, des perquisitions géantes dans 5 banques françaises après des soupçons de fraude fiscale géante, là aussi. En Ukraine, les chars occidentaux arrivent, tandis qu'en Russie, la répression se poursuit. Et ça, jusque dans les écoles, vous l'entendrez. Et puis plus léger, du foot avec la mission accomplie des Bleus, deuxième match et deuxième victoire 1-0 hier soir en Irlande lors des éliminatoires pour l'Euro 2024. Et cette question du jour sur notre site rtl.fr, Mike Maignan, le gardien des Bleus, peut-il devenir le plus grand gardien de l'histoire de l'équipe de France? Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture. Aujourd'hui, Monique Younes vous emmène au musée Picasso. Vous savez qu'on commémore cette année les 50 ans du décès du peintre.
Un sujet peut-être plus léger pour les auditeurs, c'est que Les Feux de l'amour, diffusé aux États-Unis depuis 1973, a aujourd'hui 50 ans. Les Feux de l'amour. Eh bien, nous vous interrogerons sur les séries que vous préférez en France. Quelle est votre série préférée, par exemple, vous, Céline?
Ma série préférée.
À la télévision, est-ce Columbo? Est-ce Les Mystères de l'Ouest?
Dernièrement, j'ai beaucoup aimé OVNI.
OVNI, bah écoutez, voilà, Les Feux de l'amour. Nous pourrions candidater tous les deux au Feu de l'amour, pourquoi pas. Mais en tout cas...
On va y réfléchir,
c'est diffusé depuis 50 ans.
Je sais pas comment enchaîner, parce qu'à chaque fois vous me perturbez.
Perturbant, oui.
C'est ça. La chaleur du temps après celle des Feux de l'amour.
Bah oui, parce que c'est vrai que les températures vont bien remonter cet après-midi par rapport à ce matin. Et on a un temps plutôt calme.
Merci Peggy, les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
Des cortèges qui défilent dans tout le pays contre la réforme des retraites. La scène est presque devenue habituelle depuis la mi-mars, acte 10 ce mardi de la mobilisation. Et pourtant, depuis l'adoption de la loi par 49.3, depuis les affrontements qui ont marqué la dernière grande journée de mobilisation jeudi dernier, le ton n'est plus tout à fait le même. À Bordeaux, rappelez-vous, c'est la porte de l'hôtel de ville qui avait été incendiée il y a 5 jours. Alors aujourd'hui, Philippe Demaria, la manifestation qui s'élance est considérée comme à haut risque.
Exactement, Céline, manif à risque en résonance avec les incidents de la semaine dernière, des poubelles cramées, des affrontements et donc le portail de la mairie incendié. Une personne mise en examen dans cette affaire pour rappel. Les Bordelais n'ont évidemment pas vraiment apprécié cet épisode. Pour autant, les allées de Tourny se couvrent d'une belle foule en ce moment. Cora est venue avec une amie. Elle n'apprécie pas qu'on ait cramé cette porte, mais elle est bien présente aujourd'hui, toujours opposée à la réforme des retraites.
Pour moi, c'est pas forcément la bonne méthode pour se faire entendre, mais on a l'impression que, voilà, si on n'en arrive pas à des extrémités, ils sont trop là-haut pour nous entendre. Moi, j'espère surtout qu'on n'en arrivera pas à une guerre civile, mais et qu'ils sauront entendre avant qu'on en arrive à des extrémités. Je peux comprendre les mouvements de colère qui s'expriment de diverses façons. Après, il y a des choses que je cautionne pas forcément. Et donc, effectivement, je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu à ce niveau-là. La violence génère la violence et la violence, elle vient d'en haut.
Alors des camions de pompiers tout terrain, ceux que l'on voit dans les incendies de forêt, ont été déployés dans la ville, 4 en tout, et des compagnies de CRS sont visibles dans les principales artères de Bordeaux.
Philippe Demaria à Bordeaux pour RTL.
Et après les affrontements qui ont émaillé les rassemblements jeudi dernier, le dispositif policier a été renforcé aujourd'hui.
13 000 policiers et gendarmes dans tout le pays, 5 500 rien que dans la capitale pour éviter les débordements et les dégâts des casseurs, des policiers et gendarmes pris pour cible par certains éléments radicaux. 891 ont ainsi été blessés depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en a reçu plusieurs dizaines ce matin à Beauvau, et notamment ce policier de la BAC, blessé à Lille jeudi dernier.
On a reçu une pluie de pavés inimaginable dès le début de la manifestation.
Ils ont déchaussé les pavés, c'est ça hein?
Totalement. Ils avaient des pieds de biche, ils ont tout enlevé les pavés, ils se sont préparés. On est passé à l'interpellation et c'est là, ça a été un déchaînement en fait. J'étais blessé à la cheville, j'ai eu un arrachement des ligaments au niveau du pied gauche et une légère entorse. Ils nous lançaient des billes métalliques, ils renvoyaient les MP7 avec des raquettes de tennis. On ne voyait plus rien en fait. J'étais policier dans le 93 pendant 10 ans, ça fait 12 ans que je suis à la BAC de Lille. J'ai jamais vu une telle violence, hein. On s'est fait mais massacrer.
Un propos recueilli pour RTL par Nathan Bocca. On rappelle que le défilé parisien partira cet après-midi de la place de la République, direction Nation, cortège dans lequel on attend beaucoup de jeunes, 2 à 3 fois plus nombreux que lors des rassemblements précédents, à en croire les services de renseignement. Pourquoi la jeunesse se mobilise? Qu'est-ce que ça change? On y reviendra en longueur dans quelques minutes.
Alors, comment sortir de la crise? Ce matin, les syndicats dégainent la carte de la médiation.
Oui, proposition faite par Philippe Martinez de la CGT, vous l'avez peut-être entendu dans le journal de midi, mais aussi par Laurent Berger, son homologue de la CFDT, une médiation donc pour trouver une voie de sortie. L'intersyndicale a fait savoir qu'elle allait écrire au président de la République pour la demander. Thomas Després, à l'Élysée, on n'a pas l'air emballé par cette proposition, loin de là. Hein.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Une réponse il y a quelques instants d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Non, il n'y aura pas de pause dans la réforme des retraites.
On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ce qui ne nous empêche pas du tout, déjà dans l'intervalle, de commencer à discuter des modalités d'application des différents éléments du texte, qui ne remet pas en question, ne remet pas en cause le projet de loi qui a été adopté et qui est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel.
Une toute petite porte ouverte donc, aussitôt refermée, le gouvernement prêt à parler de tout, sauf de l'essentiel, pas des 64 ans qui eux sont gravés dans la loi. Il faut dire que cette main tendue des syndicats, elle met mal à l'aise dans l'exécutif. C'est un très beau coup, avouent plusieurs conseillers, ça leur donne le bon rôle alors que l'image des manifestations se dégrade. Sauf que tout le monde a bien conscience qu'une pause même de quelques semaines reviendrait à mettre la réforme à la poubelle. Résultat, l'exécutif pour l'heure a choisi de faire le dos rond en attendant cette décision du Conseil constitutionnel mi-avril. Au grand dam de ceux qui poussent à vite reprendre la main.
Thomas Després du service politique d'RTL. En attendant, notez que les perturbations dans les transports ne s'arrêteront pas ce soir. Un exemple, dans l'aviation, 20% des vols seront annulés jeudi à Orly, Marseille et Toulouse. Et vendredi, ce sera aussi le cas à Bordeaux et à Nantes.
RTL Midi.
On l'a appris il y a quelques minutes, des perquisitions géantes sont en cours dans 5 banques en France.
Des perquisitions menées, Thomas Proutot, après des soupçons de fraude fiscale aggravée.
Oui, perquisitions spectaculaires depuis ce matin au siège de certaines des plus grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Natixis ou encore la branche hexagonale du géant HSBC. 160 enquêteurs financiers des douanes judiciaires sont sur place, 16 magistrats du parquet national financier, vous savez, le PNF, soit la quasi-totalité des effectifs. Ce qui est en jeu, c'est une gigantesque fraude fiscale à au moins 1 milliard d'euros, selon le PNF. Nom technique du dossier, cum cum, en latin, avec, sous-entendu, avec dividende. Alors, le détail est un peu technique, mais pour faire simple, l'enquête vise un montage qui a permis à des actionnaires étrangers d'entreprises françaises d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Vous savez, les dividendes, c'est la partie des bénéfices que les entreprises versent à leurs actionnaires quand elles gagnent de l'argent. Eh bien, les banques visées auraient tout simplement permis aux actionnaires étrangers qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source d'échapper à cet impôt. Rien que ça, l'opération a été préparée pendant de longs mois par la justice financière. Les perquisitions sont toujours en cours et doivent durer toute la journée.
Les dividendes, c'est 30%. Hein.
Je ne sais pas le chiffre.
C'est 30%.
C'est à peu près voilà.
Donc s'ils ont échappé à 30%, c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
C'est beaucoup, beaucoup
d'argent. S'ils n'ont pas payé les 30% sur les actions qu'ils revendaient ou sur les dividendes, c'est qu'ils ont effectivement, c'est colossal.
Et le petit détail technique, c'est que les banques sont soupçonnées d'avoir permis à ces actionnaires, en fait, de se délester de leurs titres au moment du paiement de l'impôt pour les reprendre après. Donc,
on comprend que les banques sont responsables dans ce que vous dites.
C'est en tout cas le soupçon qui est de la justice financière qui doit être caractérisé par ces perquisitions.
Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police justice ici à RTL.
À l'étranger à présent, en Ukraine, de nouveaux chars promis par les Occidentaux sont arrivés sur le terrain.
Des Challenger britanniques et des Léopards allemands, probablement utilisés lors de la contre-offensive annoncée pour le printemps. Et dans le même temps, en Russie, la répression se poursuit contre les opposants au conflit, répression jusque dans les salles de classe, puisque l'on a appris, Sophie Jousselin, qu'un père de famille risque la prison. Est-ce qu'on lui reproche au départ, c'est un dessin de sa fille?
Oui, tout commence en avril dernier. Les élèves de l'école numéro 9 de Yefremov, à 300 km de Moscou, doivent faire un dessin en soutien à l'armée russe. Macha, 13 ans, dessine alors un drapeau russe. Dessus, elle écrit « Non à la guerre » et sur le drapeau ukrainien, elle inscrit « Gloire à l'Ukraine ». Elle ajoute à son dessin une famille sous une pluie de missiles. Voyant cela, la professeure de dessin se précipite dans le bureau de la directrice qui elle-même appelle la police, qui débarque rapidement chez le papa de Macha. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont scrutés. Il y critique l'armée russe, ce qui lui vaut dans un premier temps une amende de 32 000 roubles, un peu moins de 400 euros. Et puis au début de cette année, les choses s'aggravent. Macha est placé dans un centre pour enfants. Le papa est lui assigné à résidence. Une pétition est lancée pour que sa fille lui soit rendue. En plus des 2 ans de prison requis hier contre Alexei Moskalyov, un deuxième procès début avril pourrait lui retirer définitivement la garde de sa fille.
Sophie Jousselin pour RTL. 8 jeunes arrêtés en Belgique, soupçonnés d'avoir préparé des attentats terroristes. Ils évoluent dans la mouvance djihadiste. Ce sont 2 enquêtes sur ces soupçons d'attentats qui ont été menées. Les cibles n'ont pas été déterminées à ce stade.
Le football, 2 matchs et 2 victoires pour les Bleus pour commencer les éliminatoires de l'Euro 2024.
Oui, après la démonstration 4-0 vendredi face aux Pays-Bas, ce fut un peu plus douloureux hier soir en Irlande. Une victoire 1-0, un but de Pavard. Victoire préservée par un magnifique arrêt de Mike Maignan en toute fin de match. Le nouveau gardien qui a déjà endossé un costume de patron, Nicolas Georgerot.
Oui, et il n'aura pas fallu longtemps pour que le gardien de l'AC Milan se mette en valeur lors de ce rassemblement post-Coupe du Monde. Lui qui a patienté jusqu'à ses 27 ans pour devenir le numéro 1. Depuis sa première convocation à Clairefontaine en 2019, il a régulièrement marqué les esprits à l'entraînement. Benjamin Pavard, Aurélien Tchouaméni, hier soir, saluaient l'envol de leurs coéquipiers.
C'est normal, c'est Mike Maignan. On a l'habitude, c'est un arrêt exceptionnel. Donc c'est bien pour lui, pour l'équipe.
Pas forcément surpris parce que voilà, je connais les qualités de Mike. Il a démontré le très grand gardien que c'est et c'est bien pour l'équipe de France.
Maignan, ancien attaquant dans sa jeunesse, écœure maintenant certains adversaires. Son pourcentage de réussite, notamment dans l'exercice des pénaltys et tirs au but, est faramineux. 35% arrêtés ou qui passent à côté. Le LOSC avait recruté le gardien guyanais au PSG 1 million d'euros en 2015 quand le club parisien a depuis utilisé Trapp, Areola, Buffon, Navas et Donnarumma. La comparaison est inévitable avec Hugo Lloris en ce moment, resté à ce poste chez les Bleus plus de 10 ans. C'est la durée, la continuité qui diront si Maignan à l'étoffe de l'ancien capitaine, moins spectaculaire mais à la régularité impressionnante.
Nicolas Georgerot. La météo, Peggy Broche. Il fait plus chaud,
ah oui,
mais
ah
au nord, ça reste gris.
Exactement, c'est bien voilà, résumé. Alors, c'est vrai qu'il fait plus chaud parce qu'on a eu pas mal de gelées. Par exemple, moins 3 degrés ce matin à Metz. Il en fera 10 cet après-midi, ça ira beaucoup mieux. 11 degrés à Rouen, 13 à Brest et Paris, 14 à Orléans, 16 degrés à Grenoble et Perpignan, 17 à Marseille, 18 à Limoges. Il fera 20 degrés à Agen, sachant que ce matin, il en faisait 1. Donc, vous imaginez l'amplitude thermique. 22 à Tarbes et 24 à Biarritz. Côté ciel, vous l'avez dit Céline, c'est souvent gris. Alors en fait, on a un ciel laiteux, bien voilé, donc blanchâtre sur toute la moitié nord. On a une perturbation également sur les bords de Manche qui donne un ciel bien gris avec quelques faibles pluies, puis ces pluies, on les retrouve, hein, elles ondulent également dans les terres, donc ça peut aller jusqu'à l'Île-de-France. Sur la moitié sud, c'est un temps bien ensoleillé comme ce matin, et attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, risque d'avalanche de 4 sur 5.
Merci Peggy.
C'est évidemment la crainte pour tout gouvernement quand les jeunes se mobilisent et descendent dans la rue. Est-ce le cas ou est-ce un effet d'optique? Eh bien, on va en parler dans une seconde avec Jean-François Amadieu, qui est sociologue, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro.
Cette année,
RTL Midi,
Pascal Pro et Céline Landreau. Ils seront 2 à 3 fois plus nombreux que lors des précédentes journées de mobilisation. Selon les renseignements, les jeunes sont attendus en nombre dans les cortèges aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
et Patrick Hisson, que l'on retrouve en direct du lycée Saint-Cernin de Toulouse pour RTL. Patrick, ce qui semble clair, c'est que pour ces jeunes que vous avez rencontrés, c'est le recours au 49-3 qui a été un détonateur.
Oui, très clairement, on a senti un virage qui devrait se confirmer cet après-midi à Toulouse. Les jeunes sont plus nombreux à se mobiliser, chacun le reconnaît. Le recours au 49-3 a été le catalyseur. Lissandro et Yuli sont des élèves du lycée Saint-Cernin.
Déjà, suite au 49-3, en fait, et aussi à la motion de censure qui n'est pas passée, il me semble aussi qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de jeunes qui ont réalisé la gravité de la situation, parce que c'est quand même une manière antidémocratique, ce 49-3.
Je suis assez d'accord avec Lisandro. Enfin, moi, j'ai pas mal d'amis qui se sont mobilisés après le 49-3.
Et ils le disent aussi, le sujet des retraites leur paraissait éloigné, trop éloigné de leurs préoccupations.
Mais alors, leurs préoccupations, c'est quoi ?
Écoutez, par exemple, ce que dit Lisandro, qui est en classe de première.
On milite aussi, par exemple, pour le retrait de Parcoursup et pour cette réforme du bac, en fait, qui ne convient absolument pas. Mais il y a aussi contre la précarité étudiante.
Là, vous êtes en train de préparer les pancartes, les panneaux pour cet après-midi, pour la manifestation. Par exemple, est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit là-dessus ?
Il y a écrit « La jeunesse ne veut pas de ce système-là ».
Et c'est le même discours chez des étudiants comme Gaëtan, en 5e année à l'Institut supérieur des arts de Toulouse.
Ça révèle aussi une quantité de défauts structurels dans la vie des étudiants, la précarité étudiante qu'on connaît, le refus par exemple du repas à 1 euro pour les étudiants non boursiers, enfin toutes ces attaques que le gouvernement nous fait, à nous, la jeunesse, étudiants précaires, étudiants travailleurs, on se sent plus qu'attaqué par ce gouvernement.
Cela dit, cet étudiant l'affirme aussi, nous demandons tous désormais la disparition de cette réforme des retraites. Nadella.
Merci Patrick. Jean-François Amadieu, sociologue, je le rappelle. Est-ce que vous êtes surpris par ces sons que l'on vient d'entendre à Toulouse et la manière dont ils illustrent cette mobilisation des jeunes ?
Non, c'est tout à fait attendu. Tout le monde a compris qu'évidemment, les étudiants et les lycéens sont pas dans la rue sur la question des retraites. Bien entendu, c'est sur d'autres sujets, soit parce que, comme on vient de l'entendre, il s'agit d'étudiants qui sont très politisés et qui donc, je dirais, classiquement, ont cette capacité de mobilisation pour construire un autre modèle de société, critiquer le système comme ça vient d'être indiqué dans son ensemble, et puis les questions plus classiques pour les étudiants aussi, de précarité, le repas à 1 euro, etc. Donc en fait, ce qu'il faut dire quand même sur ce qui se passe actuellement dans les lycées et les universités, c'est qu'il s'agit pour le moment massivement de jeunes qui avaient, comment dire, qui étaient déjà assez politisés, engagés.
Et ça, on ne parle pas de toute la jeunesse aujourd'hui qui se mobilise.
Et syndicales. Non, bien sûr que non. Il faut le dire, aujourd'hui, par exemple, dans les lycées, d'après les comptages, il doit y avoir quelques dizaines de lycées qui seraient bloqués, en totalité ou partiellement, sur 3700 lycées. Donc, c'est pas massif. Du côté des universités, bien sûr, il y a des blocages, mais c'est pas tout à fait massif. En revanche, comme en effet les services de renseignement le disent, ça pourrait générer à peu près 80 000 ou 90 000 jeunes dans les manifestations, donc beaucoup plus que la dernière fois, il y a quelques jours. Mais on n'est pas encore face à une mobilisation de grande ampleur dans les universités et les lycées pour le moment. Mais c'est vrai que ça augmente régulièrement depuis une semaine.
Et c'est pour ça qu'on a souhaité que vous interveniez.
Aussi, des épreuves du bac anticipées.
Parce qu'effectivement, ils étaient peu présents au départ des cortèges et qu'ils le sont un peu plus. Mais je retiens que ça reste tout à fait minoritaire pour le moment. Merci beaucoup, monsieur Amadieu. On va marquer une pause et parler de Picasso. On ne se lasse pas de Picasso, Monique Younes.
Non, on se
il y avait une
pas.
Superbe exposition au Grand Palais il y a quelques années.
Picasso et les maîtres.
C'était Picasso et les maîtres avec la période bleue, notamment la première période de Picasso.
Et ben vous la verrez au musée Picasso également.
Ça, c'est formidable, c'est vrai. On en parle dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. Le meilleur. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Et la culture, vous le savez, se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, donc, nous allons parler peinture, direction le musée Picasso à Paris. On rappelle où il est, le musée Picasso ?
Rue Thorigny. Dans le 3e arrondissement.
Dans le 3e arrondissement.
Rue Torigny, où se poursuivent donc les célébrations du 50e anniversaire du décès de Pablo Picasso. Une quarantaine d'expositions ont lieu toute l'année dans toute la France et même en Europe. C'est Monique Younès, vous avez choisi, vous, donc, de vous arrêter sur l'une des plus réussies à vos yeux, au musée Picasso, on le disait, où le couturier anglais Paul Smith met en scène les chefs-d'œuvre du musée.
Oui, la collection Prend des couleurs est le titre de l'exposition et elle fait le plein parce que l'accrochage de Paul Smith est drôle, intelligent, inédit, je dirais même jouissif. Alors vous savez, généralement, dans les musées, les commissaires d'exposition accrochent les œuvres sur des murs blancs, immaculés, ce qu'on appelle en bon français un white cube, une vision épurée de l'art. Et c'est tout le contraire qu'a fait Paul Smith. Il a peint les murs rouge sang, jaune canari, vert bouteille, bleu ciel, sans oublier le gros bonbon à la Antoine Griezmann. Il n'a pas pu s'empêcher de mettre des rayures, qui sont un peu sa marque de fabrique, mais aussi des pointillés, du papier peint en patchwork, par exemple dans la salle consacrée aux photos de Picasso, qui portait souvent une marinière. Paul Smith a suspendu 80 marinières au plafond. On n'avait jamais vu une telle irrévérence envers celui qui pourtant a cassé tous les codes en son temps. De la malice donc chez Paul Smith, mais un rôle de commissaire qu'il a pris très au sérieux.
Le musée Picasso m'a demandé de montrer les œuvres de Picasso sous un angle nouveau. Ils m'ont donné carte blanche, ils m'ont dit qu'ils voulaient rajeunir le public. Je suis assez bon pour concevoir les espaces. Après avoir décidé de l'emplacement des œuvres, il était facile de décorer les salles, de mettre du papier peint dans l'une, des rayures dans l'autre. Picasso était toujours très intéressé par de nouvelles idées. Il était très espiègle, cherchant à regarder les choses sous un angle nouveau. Tout le temps.
Et ce regard décalé sur les chefs-d'œuvre de Picasso ne donne pas un côté anecdotique à l'exposition ?
Mais pas du tout, parce que vous savez, il y a des correspondances littérales. Par exemple, les peintures sur la corrida sont présentées dans une salle rouge, les déjeuners sur l'herbe dans une salle verte. Mais beaucoup d'autres salles sont plus surprenantes, notamment dans la présentation des collages de Picasso et dans la salle des céramiques, où Paul Smith a tapissé les murs d'une centaine d'assiettes industrielles blanches, celles avec qui on mange tous les jours, au milieu desquels il a placé une demi-douzaine des plus belles céramiques réalisées par Picasso. Et le résultat est bluffant, il a même bluffé la directrice du musée de Picasso, Cécile Debray.
C'est très difficile de montrer des assiettes. Et là, la manière dont il l'a fait en distinguant bien ce qui est un objet manufacturé en série, de manière industrielle, et ses plats faits main, en fait, il y a beaucoup de profondeur. Donc il y a une intelligence du visuel. Et comme on est dans une société de l'image, il faut absolument travailler sur le voir. Comment arriver à mettre en valeur les œuvres de Picasso ?
Alors Cécile Debray a aussi voulu que ce parcours chronologique des œuvres de Picasso, qui appartiennent tous au musée, et vous verrez vos périodes préférées, Pascal, la période bleue, la période rose, les périodes vraiment antérieures, ensuite il a tout déconstruit. Toutes ces œuvres sont ponctuées d'œuvres d'artistes qui l'ont connu, mais aussi par des artistes contemporains, qui le défient, qui chahutent Picasso, qui pointent ses contradictions, qui dénoncent ses comportements. Et il était temps, car de plus en plus de jeunes aujourd'hui, sous l'influence notamment du mouvement MeToo, commencent à contester la figure mythique de Picasso. Il reproche par exemple aux anciens d'avoir fait de ce macho une vache sacrée. Cécile Debray en est consciente.
Je pense qu'il faut aller au-devant de ces débats où on aborde en fait les polémiques autour du rapport de Picasso aux femmes, le rapport aux politiques, le rapport à l'art africain et la culture extra-occidentale, de façon à envisager l'avenir. C'est-à-dire que c'est difficile pour un musée monographique de rester comme ça de manière passive et d'attendre que la vague arrive. Donc il faut vraiment s'interroger sur la manière de montrer Picasso aujourd'hui.
Et les prochaines expositions et les prochains accrochages du musée Picasso réserveront certainement des surprises. On ne peut que souhaiter qu'elles soient aussi vivifiantes que celles qu'a réalisées Paul Smith. Courez donc au musée Picasso à Paris. La collection Prend des couleurs et c'est extra.
Merci beaucoup Monique Younès, ça donne envie en tout cas.
Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 32-10. Merci Monique.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute. RTL.
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a le feu à la Maison France. Ce sont les mots ce matin sur RTL de Bruno Retailleau, des Républicains. On est avec Christian. Bonjour Christian.
Bonjour.
Ce matin, le président de la République disait ou faisait dire que c'était Jean-Luc Mélenchon qui mettait le feu, la France insoumise en général. Votre sentiment ?
Le premier pyromane, c'est Emmanuel Macron.
Donc vous n'êtes pas évidemment sur la ligne du président de la République. Vous êtes peut-être vous-même électeur de la France insoumise ?
Tout à fait.
Ceci explique cela. Céline va rappeler les titres de la journée, dominée bien sûr par cette dixième journée. Rendez-vous de mobilisation.
Et alors que cette mobilisation justement contre la réforme des retraites se poursuit, l'intersyndicale demande au gouvernement une médiation. Le MoDem, allié de l'exécutif, s'y dit favorable. Mais pour l'instant, le gouvernement lui n'en veut pas. On n'a pas besoin de médiation pour se parler, a fait savoir le porte-parole Olivier Véran. En fin de matinée, Olivier Véran qui assure aussi que l'exécutif est le rempart face à la violence illégitime. Et cela alors que l'on redoute aujourd'hui de nouveaux incidents. 13 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur le terrain pour encadrer les cortèges. 5500 rien qu'à Paris, la capitale, où le défilé s'élancera tout à l'heure de la place de la République, direction celle de la Nation. Et puis l'autre titre du jour, ce sont ces perquisitions spectaculaires. Depuis ce matin, dans 5 grandes banques du pays, perquisitions après les soupçons de fraude fiscale aggravée. Quelques 150 enquêteurs sont mobilisés. L'objet de la fraude supposée, une combine fiscale sur les dividendes dont le préjudice serait d'au moins 1 milliard d'euros, selon le parquet national financier. La météo pour cet après-midi, Peggy, c'est laiteux au nord, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. Alors, laiteux,
on parle du ciel. Hein.
On est bien d'accord. Alors laiteux, vous voyez ce que c'est ? C'est un ciel bien voilé, qui est souvent blanchâtre. Et donc, on n'a pas vraiment l'impression qu'il fasse beau, même si on peut avoir quelques éclaircies sous ce ciel laiteux par moment. Mais bon, globalement, ça reste plutôt gris, avec quelques pluies même au nord qui rentrent dans les terres, là, jusqu'en Île-de-France, parce qu'on a une petite perturbation sur les bords de Manche qui donne de faibles pluies sous un ciel là bien gris. Et sur la moitié sud, ça reste bien ensoleillé, sous un ciel légèrement voilé, mais globalement l'impression est belle. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, qui est de 4 sur 5, donc assez fort. Tout ça sous des températures qui remontent bien. Par rapport à ce matin, on a eu pas mal de gelées sur l'est du pays, on en parle plus. Ça va jusqu'à 11 cet après-midi à Nancy, 12 degrés à Dijon, 13 à Caen et Paris. Ça reste un peu juste quand même au nord. 14 à Nevers, 15 à Rennes, 16 degrés à La Rochelle et à Nice, 17 à Montpellier, 18 à Ajaccio, 20 degrés cet après-midi à Toulouse, 22 à Bordeaux et jusqu'à 24 à Biarritz.
Et demain, Peggy, une journée particulièrement chaude.
C'est vrai que les températures vont bien remonter. Alors déjà demain matin, même si par endroits ça reste un peu juste, mais souvent comprise entre 5 et 8 degrés, on n'aura plus de gelée demain. L'après-midi, elles seront en hausse, en nette hausse. Alors surtout au nord, on va atteindre souvent les premiers 20 degrés de l'année. On sera souvent sur l'ensemble du pays entre 17 et 21 degrés et on va largement dépasser les 20 degrés dans le sud-ouest. On pourrait même aller jusqu'à 28-29 degrés près des Pyrénées demain. Oui, c'est une journée même chaude du côté de Biarritz avec 28 degrés. Côté ciel, c'est quasiment comme aujourd'hui. Un ciel bien laiteux, bien voilé au nord, avec même quelques pluies éparses au nord de la Seine. Et puis c'est plus lumineux dans le sud. Et on a une petite perturbation qui aura du mal à rentrer, qui va rester sur la pointe bretonne, qui va donner quelques faibles pluies le matin et des pluies localement orageuses l'après-midi.
Merci beaucoup Peggy Broche.
Merci Peggy, merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Et comme tous les jours à cette heure-ci, nous partons donc avec les auditeurs.